Eh bien, bon dimanche à tous, vous allez bien?
Oui.
C'est bien, merci Seigneur. On va commencer en faisant une lecture dans Matthieu 28, 18. Il y a eu pas mal de courriers de personnes qui m'ont écrit en privé, qui m'ont dit « Votre message du dimanche passé nous a bien plu, on aimerait bien avoir quelque chose encore dans ce genre-là, sur la Seigneurie de Jésus. » Donc, je vais vous parler encore de cela ce matin. Matthieu 28, 18. C'est Jésus qui parle et qui dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Amen. Est-ce que vous savez ce que signifie le mot « subjuguer » ? Ça signifie avant tout, il y a beaucoup de significations, mais avant tout ça signifie « réduire à la soumission ». Mettre sous un joug. Vous vous rappelez, je vous ai dit, Jésus parle en disant « Prenez mon joug ». Ça peut aussi signifier « séduire par son charme ». Ça peut aussi signifier « séduire par son talent ». Ça peut aussi vouloir dire « conquérir » ou « assujettir » ou « fasciner » ou même « ensorceler ». Vous voyez le mot français, hein ? Eh bien, le but, l'objectif d'un vrai serviteur de Dieu, c'est d'étendre le royaume de Dieu. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » et ça signifie qu'il a reçu le pouvoir et il doit subjuguer tout l'univers pour son Père, pour celui qui lui a donné ce pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné par qui ? Par son Père. Pour subjuguer tout l'univers pour son Père, à qui il remettra tout. Son Père lui a donné ce pouvoir, en quelque sorte, il lui a dit, si vous voulez, « Fils, je ne veux plus m'occuper de mes ennemis, c'est toi qui vas le faire à ma place, tu vas régner jusqu'à ce que tous les ennemis soient sous tes pieds. » On trouve ça dans plusieurs versets, mais j'en ai noté trois, en particulier dans Éphésiens 1, 22, où il est dit « Il a tout mis sous ses pieds, donc Dieu a tout mis sous ses pieds, et il a fait chef sur toute chose pour la communauté messianique qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toute la création. Hein, » la communauté messianique, c'est nous, communauté. Donc, la communauté du Messie. Mais il y a aussi un autre verset dans Hébreux 2, 8 qui dit que, en lui soumettant, on peut déjà lire un peu avant, verset 6, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui, ou le fils de l'homme pour que tu le protèges ainsi? Tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire, tu as mis toutes choses sous ses pieds, il a mis toutes choses sous les pieds de l'homme, mais l'homme est déchu. » Ainsi, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Mais au moment présent, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Les hommes même régénérés, les femmes même régénérées, on ne peut pas dire que tout leur soit soumis, ou on ne peut pas même dire que tout soit soumis vraiment à Jésus. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans 1 Corinthiens 15, 24, 26, il est dit... je vais pas noter. Ah oui, 1 Corinthiens 15, 24, 26. Ce sera l'aboutissement de toutes choses quand le Messie remettra le royaume de Dieu à Dieu, le Père, après avoir mis fin à tout gouvernement, à toute autorité et à tout pouvoir, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qu'il supprimera, c'est la mort, car il a mis toutes choses sous ses pieds. » Donc le dernier ennemi, c'est la mort. Il va l'anéantir très bientôt. En disant ça, Jésus dit « Je suis désormais le commandant en chef des armées de Dieu. Je dois subjuguer l'univers pour mon Père. Il m'en a donné le pouvoir Et vous, mes disciples, à vous, je confie la charge de cette planète. » Si vous regardez bien les textes, c'est ce qui est dit. « Vous devez aller dans le monde entier et faire partout des disciples en les baptisant, en les enseignant à obéir à tous mes commandements. » On trouve ça dans Matthieu chapitre 28, c'est les dernières paroles que Jésus a dites. « Et pendant ce temps, moi je vais aller conquérir d'autres mondes. Alors au revoir et faites du bon travail. Je reviens bientôt et je rendrai à chacun sa rétribution. » Donc, un prédicateur de l'Évangile doit, à la charge, de récupérer centimètre par centimètre le territoire qui appartient à Dieu. Alors, pour faire ça, les disciples de Jésus doivent évidemment manger. Parce que mon père, il disait toujours, un sac vide ne tient pas debout. Donc, il faut manger. Je mange. Et pour manger, un disciple, il doit travailler. Et le but de votre travail, le pourquoi vous mangez, c'est d'étendre le royaume du Seigneur. Vous voyez, votre échelle de valeur doit changer. Vous ne faites pas des études, par exemple, à l'université, pour obtenir un diplôme. Vous êtes à l'université en tant que membre du royaume de Jésus pour travailler aux affaires du royaume de Dieu à cet endroit-là. Et il se trouve que par la même occasion, vous allez obtenir un diplôme. Lorsque vous travaillez chez un patron, ce n'est pas pour gagner ce que vous appelez votre vie. Vous y travaillez parce que Dieu a besoin de vous dans ce coin-là de la terre pour que vous soyez des témoins, pour que vous soyez des gens qui annonciez le royaume de Dieu. Et il se trouve que votre patron subvient aux besoins de cette conquête, de votre conquête, mais votre vrai patron, c'est Jésus. Ou alors ne l'appelez plus Seigneur. Jésus dit, pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis? On va lire Luc 17, 7, 9. Attention, accrochez vos ceintures. Luc 17, 7, 9. Si l'un d'entre vous a un esclave qui laboure ou s'occupe des brebis, lorsqu'il rentre des champs, lui direz-vous, approche-toi et viens te mettre à table pour manger? Non. Vous direz, prépare mon souper, habille-toi pour servir et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après quoi tu pourras manger et boire. Remercie-t-il son esclave d'avoir fait ce qu'on lui avait demandé de faire? Et Jésus continue et il dit, il en va de même pour vous. Quand vous aurez fini de faire tout ce qu'on vous a demandé de faire, vous direz, nous ne sommes que de simples esclaves et nous n'avons fait que notre devoir. Oui, c'est ce que votre doux Jésus dit. Mais on n'aime pas tellement entendre quand il dit ça. Hein. C'est pas tellement prêché ça. Si vous ne connaissez pas ce Jésus-là, ben moi je vais vous le présenter. Il est le Seigneur, nous sommes serviteurs et même esclaves. Les gens à qui Jésus parlait à ce moment-là, quand il a ouvert la bouche, sa bouche sainte pour dire ces choses sur cette terre en face de ses disciples, ceux qui l'ont écouté savaient très bien ce que signifiait être un esclave. Et c'est ce mot que Jésus a utilisé. Ça ne veut pas dire pour ça que Jésus était pour l'esclavage. Mais à l'époque, il y avait des esclaves et Jésus parle de ça. Nous n'avons plus d'esclaves aujourd'hui. Ce qui se rapprocherait le plus des esclaves aujourd'hui, ce serait un serviteur ou une boniche qui travaille pour un salaire et qui aurait un contrat clair, établi d'avance et qui serait syndiqué. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les esclaves de l'époque. Mais un serviteur, un esclave au temps de Jésus, c'était un esclave. C'est-à-dire une personne qui n'avait rien dans ce monde, plus de liberté, pas de volonté propre, même son nom avait disparu. On l'avait vendu sur un marché, comme un animal. Au marché, il avait à son cou accroché un prix. Et puis, un acquéreur est passé pour marchander encore, pour baisser le prix, en disant, ouais, mais là, il manque une dent, ou je sais pas. Quelqu'un, finalement, l'avait acheté, ramené à la maison, il avait percé son oreille pour qu'on puisse y mettre un anneau au nom de son maître. Ainsi donc, il avait perdu son identité propre, il n'avait plus son nom, il avait le nom de son maître. Si j'avais vécu à cette époque-là, je ne m'appellerais plus Michel Jonton, si j'étais esclave. Si son propriétaire lui disait « tu vas te lever à 5 heures du matin », il devait se lever à 5 heures du matin. S'il lui disait « à minuit, tu vas me préparer ça et ça et ça », il devait le faire. Il était l'esclave, plus de liberté, plus de choix, rien. Alors quand Jésus a raconté sa petite histoire de maître qui invite à manger son esclave d'abord, avant toute chose, les disciples ont éclaté de rire. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer une telle situation. Ils ne pouvaient pas imaginer une telle éventualité. C'était pas possible, ça n'existait pas. Jésus faisait de l'humour, noir, mais faisait de l'humour. Il fallait que l'esclave serve son maître d'abord et toujours. Et rentrant dans le champ, il devait se dépêcher d'aller se laver afin de ne pas puer sous les narines de son maître. Alors il se grouillait d'aller se laver, il se grouillait de changer d'habit, il devait préparer le repas pour son maître, se dépêcher, et puis, seulement après que le maître ait bien mangé et bien bu, et qu'il se soit couché, l'esclave avait le droit de penser un petit peu à lui et de manger les restes. Pensez-y. Alors quand Jésus raconte sa petite histoire du maître, qui invite son esclave à manger d'abord, les disciples ont ri à gorge déployée. Ça n'existait pas. Jésus dit, si l'un d'entre vous a un esclave, est-ce qu'il va lui dire ça? Non. Non. Et quand Jésus dit, le maître aura-t-il de la reconnaissance envers son esclave parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné, les disciples, ils ont ri encore plus fort. Non, il n'avait pas de reconnaissance. Et Jésus finit son histoire en disant, eh bien, vous de même, quand vous aurez fait tout ce que je vous aurais ordonné, vous n'aurez qu'à dire, je suis un serviteur inutile, je n'ai fait que ce que je devais faire. Le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui lisent la Bible, ils voient tout ce qu'ils doivent faire, mais ils disent, le maître a dit, mais moi je ne me sens pas poussé à faire ça. Moi, je me sens pas poussé à faire ça. Moi, je pense que... Le Saint-Esprit ne m'a pas montré qu'il fallait que je le fasse. C'est écrit, oui, mais c'est pas pour moi. Ah bon? Relisez Luc 17, 10, vous verrez l'histoire. Alors bon, peu de chrétiens aiment s'entendre dire ça de nos jours. Mais nous sommes les esclaves de Jésus-Christ, il nous a achetés. Paul l'avait bien compris, on va lire Romains 14, 7, 9. Car aucun d'entre vous ne vit que pour lui-même, et aucun d'entre nous ne meurt que pour lui-même. Et si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Par conséquent, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, c'est à cette fin que le Messie est mort et qu'il est revenu à la vie, afin qu'il puisse être le Seigneur des morts et des vivants. Oui, on nous a tellement dit « Jésus est mort pour toi à la croix, pour tes péchés. » Mais, oui, mais afin de quoi ? Hein, c'est pour nous sauver. Mais afin de quoi ? Pourquoi il nous a sauvés ? Pour qu'il puisse être notre Seigneur et nous ses esclaves. Mais mes frères et sœurs, qu'il soit mort pour nous à la croix, à notre place, pour que nous puissions être sauvés, c'est qu'un aspect de la chose. La raison pour laquelle Jésus est mort et est ressuscité, Paul le dit, c'était pour qu'il puisse devenir le Seigneur de tous ceux qui sont ses esclaves. Vous pensez que j'exagère ? On va lire 1 Corinthiens 5, 15. 1 Corinthiens 5, 15. Voilà ce qui est dit. Il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et qui est revenu à la vie. Voilà pourquoi Jésus est mort. Pas pour qu'on vive pour nous-mêmes en disant « Je me sens poussé à faire ceci, je me sens poussé à faire cela. Ah ben non, non, je ne me sens pas poussé à... Ah ben non, là non, il ne faut pas exagérer quand même, Michel. Non, on est libre. Je suis libre. Là, là, là. » Nous avons donc été achetés à un grand prix. Et voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, on trouve partout cette expression du genre « Paul, serviteur de Jésus-Christ » ou « esclave ». « Jacques, serviteur de Jésus-Christ ». « Pierre, serviteur de Jésus-Christ ». Et même vous qui adorez Marie, elle était servante du Seigneur, esclave. Luc 1, 38. C'est écrit. Eh oui. Alors nous étions perdus avant d'avoir été trouvé par notre propriétaire. Il nous a trouvés sur le marché. Nous étions perdus, oui. Mais nous le sommes encore. Michel, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Nous étions perdus dans les mains de Satan, et aujourd'hui nous sommes perdus dans les mains de Jésus. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis perdu, c'est plus moi qui vis. On parle beaucoup de liberté en ce moment. T'as remarqué dans les actualités ? Oui, atteinte à ma liberté, poil au nez. Et nombreux sont ceux qui pensent que le salut, c'est de recevoir la liberté. Oh, gloire à Dieu, je suis libre. Ben, pas tout à fait. Hein. Pas tout à fait. On va lire Romains 6, 17, 18. Romains 6, 17, 18. Mais par la grâce de Dieu, vous, qui autrefois étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout votre cœur au modèle d'enseignement qui vous a été donné, et après avoir été affranchis, c'est-à-dire libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous voyez, mes frères et sœurs, il y a deux maîtres dans ce monde. Il n'y en a pas trois, en tout cas, vous n'êtes pas maître. Il y a deux maîtres dans ce monde. Et chacun de ces maîtres a son royaume. Nous sommes tous nés dans le royaume des ténèbres. Tous nés dans le péché. Nous étions des citoyens naturels du royaume de l'égoïsme. C'est un royaume où chacun fait ce qu'il veut. C'est ainsi que Satan mène son royaume. Vous voulez une preuve ? Éphésiens 2, 1, 3.
Éphésiens 2, 1, 3. Vous étiez morts à cause de vos péchés et de vos actes de désobéissance. Vous avez marché autrefois selon le cours de ce monde. Vous avez obéi au chef des puissances de l'air. Qui agit toujours parmi les fils de la rébellion. Nous aussi, nous vivions tous de cette manière, selon les passions de notre vieille nature, obéissant à ses désirs ainsi qu'à nos pensées. Nous étions, de par notre nature charnelle, voués à la colère de Dieu, tout comme les autres. Nous vivions comme on voulait. Nous faisions tout ce qui nous plaisait, mais en réalité nous étions sous l'influence du chef de la puissance de l'air. En fait, nous étions, une petite parabole, hein, nous étions comme dans un bateau qui est en train de couler. Le capitaine sait que le bateau est en train de couler, alors il faisait passer des messages. Allô, allô. À tous ceux qui étaient en seconde classe, par exemple, il disait allô, allô. Ceux qui vivent en seconde classe, vous pouvez aller en première classe. Vous êtes libres. Faites ce que vous voulez. Ceux qui veulent. Alors, encore un autre message. Ceux qui veulent jouer au foot dans la salle à manger, vous êtes libres de le faire. Si vous cassez les lustres, c'est pas grave. Alors, les passagers dans ce bateau qui est en train de couler, ils ne le savent même pas, qu'est-ce qu'ils disent, ces passagers, hein? Ils disaient, « Ah, mais qu'est-ce qu'il est gentil, ce capitaine! On peut faire tout ce qu'on veut! » Hein? Mais ils étaient tous voués à la mort. Ils sont encore tous voués à la mort. Le bateau coule. Au royaume des ténèbres, vous pouvez avoir toutes les drogues, toutes les tricheries, toutes les libertés que vous voulez. Ça ne change rien au fait que vous êtes perdu et condamné à la mort. Vous pensez être libre de votre vie, de pouvoir faire ce que vous voulez, mais vous êtes conduit par l'esprit égoïste de votre royaume, du chef de votre royaume, qui n'est autre que Satan. C'est qu'une question de temps. Alors, c'est quoi le salut? Certains vont dire, mais alors c'est quoi le salut? C'est être délivré du pouvoir des ténèbres, être transporté dans le royaume du Fils de Dieu. On va le lire dans Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son cher fils. C'est ça le salut. Être sauvé, c'est pas être débarrassé des deux royaumes. C'est passer de la souveraineté de Satan à la souveraineté de Jésus qui est très exigeant. Qui est Seigneur et qui nous dit, vous de même, comme l'esclave, vous faites ce que je vous dis. Et si vous faites ce que je vous dis, vous n'aurez qu'à dire, on a fait que ce qu'on devait faire et puis c'est tout. On n'a pas à se vanter. On n'est pas des héros parce qu'on a fait ceci ou parce qu'on a fait cela si Jésus nous a dit de le faire. Dans le royaume de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas faire tout ce qui vous plaît. Vous faites partie du royaume de Dieu, c'est lui le roi, c'est lui qui règne, et nous avons à nous conformer à ses désirs et à ses ordres. Faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Regardez tout ce qu'il a commandé. Pas seulement tout ce qu'il a promis, mais aussi tout ce qu'il a commandé. Alors je vais revenir dimanche prochain sur ce sujet. Je crois que vous avez déjà pas mal de choses à digérer avec ça. Vous êtes esclave de Satan ou vous êtes esclave de Jésus. Il n'y a pas trois possibilités. Mais si vous êtes esclave de Jésus, prouvez-le. Amen. Merci Jésus de donner à mes frères et sœurs un peu de courage, de virilité, de fermeté dans leur décision de te suivre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir.